Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 juin 2021, il fait assez beau dans le Beaujolais, c'est un petit peu mitigé, avec un ciel partiellement nuageux, des températures agréables qui ne devraient pas dépasser les 24 degrés. Et on note pour ce soir quelques risques d'averse qui devraient nous rafraîchir encore un petit peu, ça fera pas de mal. Au programme de notre émission, on continue d'aller à l'école, tiens, on retrouve le prof Patrick pour nous parler d'économie, comme à son habitude. On terminera l'émission avec Pauline Lévenir qui nous parlera de cinéma et en particulier des films à l'affiche du cinéma 400 coups de Villefranche. Mais d'abord, on va passer un moment avec notre invité du jour. On va le joindre par téléphone, il s'agit d'Edouard Parinet, propriétaire du château du Moulin à Vent à Romanèche-Thorin. Ils organisent cette année encore une journée porte ouverte, si on peut dire, intitulée « Allons en vigne », l'occasion de visiter ce domaine viticole vieux de 300 ans, visiter les caves, les vignes et en profiter pour découvrir, pourquoi pas, les expérimentations en cours, les méthodes de vinification et de culture. C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, en se penchant sur l'une des plus célèbres appellations du Beaujolais. Et avant de vous emmener au château du Moulin à Vent, Louise Attaque, eh bien, eux, ils vous emmènent juste au vent. Mais c'est déjà pas mal. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Voilà de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel.
Louise Attaque, évidemment, je t'emmène au vent.
Ensemble sur Calade.
Et moi, ce midi, je vous emmène au château du Moulin à Vent. C'est plutôt notre invité qui va nous y emmener, c'est Édouard Parinet qui en est le propriétaire. Bonjour.
Bonjour.
Le château du Moulin à Vent, c'est une appellation emblématique dans le Beaujolais, on peut dire aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc Moulin à Vent, un des 10 crus du Beaujolais, et puis donc château du Moulin à Vent. Notre domaine viticole rassemble 30 hectares de vignes seulement sur l'appellation Moulin à Vent. Voilà, c'est un domaine historique qui date à minima de 1732, familial. Donc ma famille qui le développe avec Brice Lafond, notre maître de chais. Et oui, c'est un domaine en plein milieu aussi de l'appellation Moulin à Vent, donc juste derrière le moulin historique.
Ouais.
Et voilà, avec une belle maison bourgeoise, une belle cave voûtée et un joli cuvage pour accueillir et pour faire déguster les vins.
Alors vous nous avez dit, c'est géré à deux avec justement Brice Lafond depuis 2013. Comment ça se passe cette gestion du domaine? C'est quoi les rôles qui sont partagés entre vous?
Bah en fait, Brice Lafond au château du Moulin à Vent s'occupe de toute la partie vigne et vin. Donc il a une équipe d'une dizaine de vignerons qui s'occupent de la vigne au quotidien. Et puis ensuite, pour les vendanges qui sont manuelles au domaine, on recrute environ 80 personnes au moment des vendanges. Et donc c'est vraiment Brice qui a la mission de gérer tout cela, et puis ensuite bien évidemment la vinification et l'élevage du vin. Moi de mon côté, je m'occupe beaucoup de la partie commerciale, de l'animation commerciale, puisqu'aujourd'hui nos vins sont évidemment distribués en France dans 50% des volumes, mais aussi beaucoup à l'export, le reste des 50%.
Ouais.
Et puis donc mon père qui chapeaute un petit peu toute l'équipe et qui est notre animateur et la personne qui dynamise toute l'équipe au quotidien.
Ça reste à taille humaine, j'ai l'impression. Enfin, il y a vraiment l'esprit familial qui est bien présent, non?
Oui, tout à fait. Ça reste un petit domaine familial, comme je vous le disais, 30 hectares, à peu près un peu plus de 100 000 bouteilles produites par an. Donc ça reste des quantités de production assez raisonnables. Et puis mon père et moi, passionnés de vin, et puis à Moulin à Vent depuis 2009, on est amoureux de cette appellation, et puis on est passionné par l'histoire du domaine, par l'histoire de l'appellation, et puis surtout très très motivé pour participer, on va dire, à la remontée des crus du Beaujolais pour notre cas précis de celui de Moulin à Vent. Ouais.
Vous avez parlé des vendanges à la main, je crois. Quel mode d'agriculture vous avez choisi, vous utilisez? Vous avez des techniques particulières ou comment ça se passe dans votre domaine?
Bon, voilà, l'objectif à Moulin à Vent et au château du Moulin à Vent, il est vraiment de faire des grands vins, des bons vins et des vins de garde. Il est clairement beaucoup plus porté sur la qualité que sur la quantité. Donc on a déjà des très petits rendements à Moulin à Vent, hein, parce qu'on a un environnement qui est très particulier sur ce cru, des vents déjà assez puissants qui ont cette capacité d'assécher, de concentrer les baies de gamay, et puis une viticulture que vous l'évoquiez, une viticulture biologique. Cette année devrait être notre première année en certification bio.
Ouais.
Donc voilà, l'objectif, il est qualitatif et il est, on va dire, durable dans son ensemble, que ce soit pour nous en tant que famille comme pour nos vignes et nos vins en tant que produits de consommation. Donc c'est dans cette démarche-là qu'on s'inscrit. Ouais.
Ça prend du temps, je crois, de passer en agriculture biologique, d'avoir la certification. Il faut quelques années avant que qu'on puisse obtenir le label.
Oui, c'est ça. Il y a trois années de pratique avant d'avoir la certification biologique, absolument.
D'accord.
Et puis bon, avant ces trois années-là, il y a tout un travail ce qu'il faut, la vigne et le vin, ça s'inscrit évidemment dans le temps.
Ouais.
Et avant de pouvoir commencer à postuler, je dirais, pour cette certification, il y a des années et des années de remise en état du vignoble Hein, donc nous aujourd'hui au domaine depuis 10 ans, toutes les vignes sont travaillées, travaillent des sols, nos vignes sont palissées également, il n'y a aucun intrant chimique qui n'est utilisé au domaine, donc ce sont que des produits conformes à l'agriculture biologique qui sont utilisés. Et puis là enfin après plusieurs années on est prêt pour cette certification.
C'est des pratiques à réapprendre aussi, des choses qu'on avait l'habitude de faire d'une certaine façon. Il faut tout réinventer, enfin presque quoi, faut retrouver de nouvelles méthodes, c'est ça?
Oui, bah c'est de toute façon on est à Moulin-à-Vent, on a la chance d'avoir une appellation qui produit des vins très typés, hein, dans l'ensemble des crus du Beaujolais. C'est pour ça que Moulin-à-Vent a cette réputation d'être le seigneur des crus. On y produit des vins voilà qui ont une vraie particularité, des vins avec de la structure, avec un petit peu plus de largeur, je dirais, que probablement les autres crus du Beaujolais. Et puis des vins qui peuvent se garder, hein, dans le temps. C'est aussi une des grandes particularités de Moulin-à-Vent. Et puis à Moulin-à-Vent aussi, une des particularités de l'appellation, c'est sa diversité de sols, hein, puisqu'aujourd'hui on dénombre 69 lieux-dits sur cette petite appellation qui ne fait qu'un peu plus de 600 hectares. Donc il y a une vraie diversité qu'on met en lumière au travers notamment de certaines de nos cuvées parcellaires, Verilla, Chantecourt, Rochelle. Ces trois lieux-dits en particulier sont des lieux-dits très atypiques qui font des vins très particuliers et qu'on met en bouteille depuis nombreuses années. Ouais.
Et alors justement, d'année en année, les vins, ils évoluent, ils sont influés par la météo principalement, je crois. Cette année 2021, comment ça se passe? Là, on est à peu près à mi-année.
Qu'est-ce qu'on peut dire
de cette année? Ouais.
Alors cette année, évidemment, il est un petit peu tôt pour avoir des conclusions fermes sur la qualité du millésime. Ce qu'on peut simplement dire pour le moment, c'est que bon, déjà on a eu un épisode de gel le 8 avril dernier qui a quand même beaucoup affecté la vigne à Moulin-à-Vent. Donc on s'attend à des rendements très bas au château du Moulin-à-Vent. Ça c'est la première chose. On s'attend aussi à une vendange plutôt tardive puisque la fleur a débuté dans les vignes il y a un peu plus de 2 semaines. Donc on s'attend à un début de vendange vers la mi-septembre. Mmh. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on peut dire. On a eu un mois de mai très pluvieux, donc a priori les réserves d'eau sont bonnes, ouais. De quoi potentiellement tenir un été chaud et sec. Mais pour l'instant, on peut simplement dire qu'il y aura peu de vin et ensuite, on l'espère, de très belle qualité.
Ok. Et le sucre du vin, je crois que c'est l'été, plus il y a de soleil et plus ça y est sucré, ou je dis n'importe quoi?
Oui, non, c'est un petit peu ça. C'est vrai que souvent les millésimes chauds et solaires donnent plus de maturité, et qui dit plus de maturité dit plus de sucre. Après, c'est un équilibre global. Il y a le sucre évidemment, et puis l'acidité notamment qui rentre beaucoup en compte, la maturité phénolique, enfin tout un tas de paramètres. Et puis il y a les paramètres, on va dire, analytiques, et puis il y a la dégustation, hein, donc le goût du raisin avant même qu'il soit vendangé. On goûte aussi les raisins sur vigne pour voir un petit peu comment ils se comportent et quelles caractéristiques gustatives ils ont, en plus des analyses de sucre et d'acidité dont on parlait auparavant. Ouais.
Là, vous êtes très probablement en train de préparer un rendez-vous qui arrive très vite. C'est ce samedi, Allons en Vigne. Qu'est-ce que c'est, Allons en Vigne? C'est, on peut dire, une porte ouverte du domaine?
Oui, exactement. C'est, on va dire, un chai ouvert. En fait, le principe d'Allons en Vigne, c'est de rassembler les amateurs de vin chez nous, en plein cœur de l'appellation Moulin-à-Vent, au château du Moulin-à-Vent. Le principe, c'est de passer un bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on a à la fois la dégustation de nos vins, évidemment, le millésime 2019 qu'on va présenter samedi prochain. C'est aussi de passer un bon moment musical avec le Family Jazz Band qui vient et qui jouera ses airs joviaux. Voilà, et puis on a la chance d'avoir une météo qui sera très bonne samedi. Donc voilà, après une année et demie de disette, on va retrouver les amateurs de vin, les locaux et les amateurs tout simplement de nature pour déguster les vins et passer un bon moment au château du Moulin à Vent. Donc allons en vigne, c'est ça, c'est avant tout un moment de plaisir et puis c'est aussi l'occasion, bien évidemment, pour ceux qui viendront nous rencontrer, de, je dirais, faire le plein
faire remplir la cave.
Des vins de Moulin à Vent, exactement, du millésime 2019. On a aussi un petit peu de blanc sur l'appellation Pouilly-Fussé. Donc a priori, il y a de quoi faire.
Et je crois que c'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu l'envers du décor. Je crois que vous expérimentez beaucoup au Moulin à Vent, qu'il y a beaucoup d'expérimentation autour du vin. Vous allez faire découvrir tout ça?
Oui, en fait, ce qu'on aime faire, c'est effectivement faire déguster les vins. Et puis on a la chance d'avoir un site assez sympathique, je dirais, donc avec nos caves voûtées, le chai historique. On a aussi une salle de dégustation qui vient d'être entièrement refaite, donc dans laquelle on pourra faire également déguster certains de nos vins. Et puis ensuite, on est en plein cœur de Moulin à Vent, donc en plein cœur des vignes, donc les vignes sont tout autour, et donc il est très très aisé d'aller dans les vignes pour voir justement la conduite du vignoble et les expérimentations qui sont faites par Brice et son équipe et nous au global.
Et j'ai découvert le terme vinothèque. Qu'est-ce que c'est que cette vinothèque que vous constituez depuis plus de 10 ans? C'est vos vins que vous produisez ou c'est d'autres vins que vous rassemblez?
Non, en fait, on en parlait un petit peu auparavant. Une des grandes caractéristiques de Moulin à Vent, c'est sa capacité de garde. Et donc, en fait, fort de cette particularité, on s'est dit depuis de nombreuses années qu'il fallait qu'on garde des millésimes pour pouvoir les faire déguster après une dizaine d'années, par exemple. Et donc, effectivement, samedi prochain, le 26 juin à partir de 15h au château du Moulin à Vent, on vous fera non seulement déguster le millésime en cours, donc le 2019 qu'on commence tout juste à commercialiser, et puis on aura aussi des vins un petit peu plus matures. Donc l'idée c'est de valoriser l'appellation Moulin à Vent, notre domaine, et puis de montrer aux personnes, s'ils ne le savent pas encore, que ces vins du château du Moulin à Vent peuvent se garder 10, 15, parfois même plus longtemps pour les meilleurs millésimes de garde du domaine.
J'ai vu justement, on va parler de ce millésime 2019, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux qui date des vendanges de 2019 où il y avait écrit un vin qui s'annonce puissant, équilibré et taillé pour la garde justement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 2 ans plus tard, qu'il a eu tout son temps de maturation? Comment est-ce qu'on peut le décrire ce vin 2019?
Oui, c'est un très bon résumé, je pense. Je vous remercie de l'avoir fait. Le millésime 2019, c'est un très beau millésime. C'est un millésime qui a, en même temps, comme vous le disiez, de la puissance, qui a un très beau potentiel de garde, et en même temps qui a aussi beaucoup de finesse, un côté sur le fruit rouge, un côté assez évanescent, assez floral. Donc c'est des vins qui vont, je pense, beaucoup plaire aussi, on va dire d'une façon assez immédiate, pour une dégustation assez rapide. Mais c'est des vins, qui ont une bonne 10-15 ans de garde facilement. Donc pour Allons en Vigne 2031, on peut imaginer des 2019 qu'on aura gardé précieusement dans nos chais, oui.
Ouais, c'est un beau projet. En tout cas, on va déjà noter le Allons en Vigne 2021. Rendez-vous donc effectivement samedi 26 juin à partir de 15h pour la visite, et puis à partir de 19h, je crois que là, ça part en ambiance musicale avec le fameux Family Jazz Band. On peut réserver si on veut manger, c'est ça, par téléphone?
Ouais. Exactement, vous pouvez réserver. Donc bon, vous pouvez évidemment, chers auditeurs, trouver notre site internet sur Google, sur Internet. Vous pouvez aussi nous appeler au 03 85 35 50 68 pour réserver directement chez nous. Et donc nous, on vous attend effectivement à partir de 15h pour la dégustation et à partir de 19h pour la partie plus musicale avec une collation donc à réserver à l'avance.
Avec, bien sûr, on continue de le préciser, toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place. Et puis, il faut le préciser, parce qu'on a parlé de, on a beaucoup parlé de vin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Merci beaucoup, Édouard Pariné, d'avoir passé ce moment avec nous.
Ben, merci à vous pour votre invitation, et je dis à samedi prochain à tous les auditeurs, à Moulin-Avent, au château du Moulin-Avent, juste derrière le Moulin-Avent.
Parfait, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, à bientôt. On va rester du côté des moulins. Voici Dusty Springfield qui reprend Les Moulins de mon cœur, version anglaise, The Windmill of My Heart.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, but never spinning me, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. Jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the just hanging in a hallway and the fragment of a song, half remembered names and faces
Dusty Springfield, The Windmill of Your Mind, morceau composé bien sûr par Michel Legrand.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Allez, on retrouve tout de suite le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Eh ouais, éternel suspense, de quoi vais-je parler? Eh bien, je vais encore te parler du réchauffement climatique, mais comme d'habitude, avec une approche différente.
D'accord,
d'accord.
Deuxième partie.
Alors je vais commencer par une question en fait, Mathieu. Est-ce que tu pourrais me dire quel est le pilier central de la pensée d'extrême droite?
Waouh, je sais pas, c'est le nationalisme et les gens différents, on les aime pas.
Ouais, alors nationalisme, c'est encore ça vient après, c'est le rejet de l'autre, ouais. Le rejet de la différence, tout à fait. Le rejet de l'étranger, celui qui est pas comme nous en quelque sorte. Mais il faut ajouter à ce socle un ingrédient qui va donner tout son sens à la pensée d'extrême droite, c'est qu'il ne s'agit pas de se contenter de rejeter cet autre, cet étranger entre guillemets, il faut aussi le rendre responsable de tous nos maux.
Ah ouais.
On retrouve là un peu le bon vieux mécanisme du bouc émissaire, cher à un anthropologue qui s'appelle René Girard, anthropologue français, qui a étudié ça tout au long de sa carrière. Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une illustration de ce mécanisme du bouc émissaire dans un domaine très éloigné qui est le réchauffement climatique, justement. Alors dans ce domaine comme dans d'autres, la pensée d'extrême droite va s'attacher à chercher donc des boucs émissaires, en quelque sorte des responsables à blâmer. Voilà. Et depuis quelques années, bingo, ils ont trouvé... Le responsable du réchauffement climatique, de tous nos maux, c'est ni plus ni moins que l'explosion démographique dans le monde. D'accord ?
D'accord, ok.
Et c'est reparti pour un petit salaud de pauvre. Tu te souviens, Mathieu ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est...
Il y a deux, trois semaines, on en avait parlé de salaud de pauvre, hein, référence à Jean Gabin et ouais. Au film La traversée de Paris, de Claude Tanlara. Vous êtes trop nombreux, les pauvres. Le réchauffement climatique, c'est de votre faute.
C'est la faute des pauvres, mince.
Exactement, voilà. Comme toujours, pour que la fable du bouc émissaire fonctionne, il faut un storytelling simple, efficace et frappant. Et tu vas voir qu'on a ce qu'il faut. Depuis 1970, Mathieu, les émissions de CO2 ont doublé. D'accord ? Mais est-ce que tu savais, Mathieu, qu'en même temps, durant la même période, la population a aussi doublé ?
Ah, lien de cause à effet.
Et voilà, le tour est joué, t'as compris, lien de cause à effet, la surpopulation a causé le réchauffement climatique, c'est parti. Il faut donc à toute force réduire la population mondiale et on aura réglé le problème du réchauffement climatique.
Super, bah c'est très bien ça.
Voilà. Alors, pour donner un vernis scientifique à cette thèse, on ressort ce bon vieux Thomas Malthus. Thomas Malthus, c'était un prêtre anglican et un économiste contemporain d'Adam Smith. Donc ça date pas d'hier, c'est fin 17e, début 18e siècle. C'est lui le premier qui a formulé le problème potentiel d'une population susceptible d'augmenter bien plus vite que les capacités de production. D'accord ? Donc Malthus a tracé un avenir très sombre où il voyait une augmentation de la population qui créerait inévitablement des tensions pour les ressources. Il a donné son nom à un courant qu'on appelle le malthusianisme, qui consiste à prôner une stricte limitation des naissances pour prévenir ce danger. Alors, avant de continuer, on va faire nos petits malins, Mathieu. Tu vas noter ça pour faire le kéké dans les dîners en ville le soir. Je t'informe, Malthus, en fait, a piqué cette idée à un contemporain beaucoup moins connu que lui, un homme d'église comme lui, mais qui était médecin et géologue de profession. C'était le révérend Joseph Townsend. Ce révérend a notamment écrit un fameux conte, le conte de l'île aux chèvres, qui semble avoir inspiré Malthus, puisqu'il a été écrit avant les ouvrages de Malthus. Il s'agit d'un récit fictif d'un couple, un couple composé d'une chèvre et d'un bouc,
d'accord,
qui se retrouvent seuls sur une île et qui vont donc faire tic-tic, faire plein de petits et peupler complètement l'île. Jusqu'à ce que des Espagnols déposent sur la même île un couple de chiens, un chien et une chienne, bien sûr, qui vont faire pareil. Ils vont peupler cette île et la descendance et eux-mêmes, ils vont manger les chèvres en quelque sorte.
Ouais.
Et c'est ainsi, morale de l'histoire, que l'île trouve enfin un équilibre démographique par le jeu de la survie entre les chèvres malignes qui arrivent à échapper aux chiens et les chèvres stupides qui servent de garde-manger, bien sûr. Et okay. Puis les chiens qui, s'ils sont assez bons chasseurs, prospèrent également. Bref, cette fable, elle n'a pas seulement inspiré Malthus, elle a aussi préfiguré avec 60 à 70 ans d'avance toute l'œuvre de Darwin quand même. C'est quelque chose.
D'accord.
Pourtant, la postérité n'a pas retenu Joseph Townsend. Mais bon, fin de notre petit détour théorique, revenons à, non pas à nos chèvres, mais à nos moutons. La causalité population en augmentation génère des émissions de CO2 n'est rien d'autre qu'une vision stupidement simpliste de la réalité. Donc maintenant, on va mettre un grand coup de balai dans cette vision-là. On va prendre des chiffres tout simples, les chiffres d'émissions de CO2 par personne. Un Européen émet en moyenne 8 tonnes de CO2 par an.
Okay.
Nous, hein, nous ouais. Mathieu. Un nord-américain, les ricains, ils en émettent 15, hein, deux fois plus que nous.
Ils sont toujours plus forts.
Ah bah ouais, toujours. Les chinois, les affreux chinois, hein, d'accord, ils n'en émettent que 6,4 tonnes par an. Ah, moins que les européens, moins que nous.
D'accord.
Et enfin, un indien, alors lui, 1,5 tonnes, il émet rien du tout par rapport
d'accord,
à nous.
Hein. C'est le meilleur écolo.
D'accord. Exactement. Donc, qui pollue, c'est l'Europe et les États-Unis. Les 10% de la population mondiale que constituent l'Europe et les États-Unis sont responsables d'autant d'émissions de CO2 que les 90% restants.
D'accord.
Ouais. D'accord. Donc, salaud de pauvre, ça n'a pas marché, là, cette histoire. Alors, bien sûr, tu pourrais m'objecter, Mathieu, que nos populations à nous, Européens et Américains, n'augmentent pas, contrairement à celles des pays en développement. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi des Chinois. La population chinoise n'augmente pas. Alors, est-ce qu'il faut, comme l'a fait la Chine il y a 42 ans, soyons précis, imposer à l'Inde et aux pays en développement une politique autoritaire de l'enfant unique ? Il faudrait pour ça un État centralisé, autoritaire, et il faudrait que cet État soit en mesure d'imposer une dictature totale. Alors, au-delà de savoir si c'est moralement souhaitable, quand même, hein, il y a quand même cette question-là qui serait à poser. Quand même.
La question, ouais.
En tout cas, de toute façon, ça ne marchera pas dans la plupart des pays. Pourquoi ? Bah parce que tout le monde n'a pas les milliers d'années de culture étatique qu'avaient les Chinois. D'accord ?
Ouais.
Au fait, Mathieu, à ton avis, pourquoi cette explosion démographique à partir des années 70 ?
Je ne saurais pas répondre là.
C'est assez simple. On pourrait dire que c'est une sorte d'effet positif d'une première vague de progrès, en quelque sorte, un progrès économique, technologique, sociaux, qui ont enclenché dans le monde entier une baisse de la mortalité infantile, même dans les pays en développement, et une certaine augmentation de la durée de vie grâce à une amélioration de la santé. C'est une première couche de progrès, on pourrait dire, qui a généré cette explosion démographique. Mais on reste, à cette époque-là, dans un cadre économique typique du XXe siècle, c'est-à-dire une minorité de pays dominants, Europe, États-Unis, et une majorité de pays politiquement et économiquement dominé ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Alors, pour aller au-delà et ralentir cette croissance économique, bref, pour que la fécondité des femmes diminue, il faut passer à une deuxième étape. D'accord ? Et cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le développement économique proprement dit. En fait, concrètement, ça passe par des progrès dans chacun des pays concernés, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. Et notamment l'éducation des femmes.
Ouais.
On en a une illustration constante depuis 40 ans avec les pays émergents qui, tous depuis les décennies où ils ont commencé à décoller, les années 90 hein, globalement, confirment cette évolution. C'est-à-dire que le développement économique, s'il passe par des progrès dans la santé et l'éducation, amène inévitablement en même temps une diminution de la fécondité des femmes. Sauf que... Mathieu, j'ai toujours un sauf que pour toi.
Il a été long.
Eh bien oui, sauf que on se retrouve avec un gros problème en fait. Cette conséquence positive de l'entrée des pays dans le développement, donc la baisse de la fécondité, donc le ralentissement de la croissance démographique, elle est contrebalancée par une conséquence négative. Leurs émissions de CO2 par habitant se mettent alors à progresser irrésistiblement.
Et ouais, d'accord.
Eh bien ouais. Et c'est comme ça que la Chine est passée en 25 ans de chiffres qui au départ étaient assez proches de l'Inde, on a dit 1,5 tonnes de CO2 émis par habitant et par an, à leur 6,4 tonnes. D'accord ? Donc on a un problème. On pourrait dire que derrière la boucle, la recherche de bouc émissaire à lyncher, puisque derrière l'idée c'est à cause des pauvres, à cause de la surpopulation, on a cette image des hordes de migrants qui vont déferler sur nos sociétés civilisées. On voit bien hein, derrière le grand fantasme. Derrière tout ça, en fait, le réel s'obstine. C'est notre système de développement industriel capitaliste qui génère les émissions de CO2 qui nous ont menés au bord du gouffre. D'accord ? Et c'est pas l'augmentation de la population. Comme le dit un article du site Uzbek Erika, que je vous mettrai en lien dans le podcast, la question démographique n'est qu'une variable de l'équation du réchauffement climatique. Il ne faut pas réduire les causes à cette simple variable. Alors conclusion, Mathieu, la solution à ça, toujours, elle est politique, tout bêtement. Il faut lutter pour accélérer la mutation vers un système économique plus vertueux. Il faut affronter les lobbies qui freinent des quatre fers, qui ne veulent pas de cette mutation.
Ouais.
Il faut affronter les experts, je mets des guillemets à experts, puisque je parle des experts économistes libéraux qui racontent des fadaises à nos gouvernements. On en a parlé la semaine dernière, Mathieu. D'accord ?
Ouais.
Bref, il y a du boulot, quoi. Alors ne perdons pas de temps à chercher des têtes à lyncher et regardons les problèmes en face.
Ouais.
J'en ai fini, Mathieu.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt.
À bientôt. Salut les auditeurs.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, puisqu'on parle d'écologie avec le prof Patrick, voici Marvin Gaye. Merci, merci me.
on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to do. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lost. Mercy, mercy, me. Mercy, all things and what they wish to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Mercy, can't you stand?
Merci, merci Mi, c'était Marvin Gaye sur Calade et il est l'heure de parler de cinéma.
Vive le cinéma.
Ensemble sur Calade.
Vive le cinéma.
Non, c'est plus...
Vive le cinéma.
Et pour nous parler ciné, on retrouve Pauline Lavenir. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Allez, on t'écoute.
Alors aujourd'hui, dans notre chronique cinéma, on vous parle des films qui sont à l'affiche du cinéma Les 400 coups. On commence tout de suite avec le film Sœur de Yamina Benguigui, réalisatrice algérienne, qui propose des films sur la thématique de l'immigration et particulièrement celle du Maghreb. Sœur nous raconte l'histoire de trois sœurs franco-algériennes, interprétées par Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwen. Elles apprennent que leur père est mourant et décident de se lancer à la recherche de leur petit frère disparu qui a été enlevé et caché par leur père. Elles partent alors en Algérie pour essayer de faire avouer leur père sur où est leur frère. Elles sont alors confrontées, à travers cette quête d'espoir pour retrouver leur petit frère, dans leur pays d'origine, à leur double identité entre française et algérienne. C'est un beau film touchant qui nous parle de famille et d'identité.
J'ai reçu un appel d'Alger. Votre père, il a fait un AVC. Toi, l'aîné, tu vas partir avec tes sœurs. Tu vas voir ton père à l'hôpital.
Je peux pas faire ça, je peux pas revivre ça.
Ça fait 29 ans qu'on l'a enlevé. Il va parler. Il va dire où l'a caché mon fils.
Le père s'étant approprié le livret de famille, enlèvement illégal. Hélas, la France ne peut rien faire pour vous.
Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous.
C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés.
On est venu chercher notre frère.
Est-ce que tu veux nous aider?
Si t'avais pas divorcé, on n'en serait pas là.
Pour que vous soyez libre.
Avec le film Gargarine de Fanny Liato et Jérémy Trouy. Ce film nous raconte l'histoire de Yuri, un jeune homme rêveur de 16 ans, interprété par Alseni Batili, qui vit dans la cité de Gargarine. Il apprend alors que la cité va être démolie et avec ses amis, ils décident ensemble de se lancer en résistance pour sauver leur cité de la démolition. C'est un film puissant sur l'amitié et les rêves et sur jusqu'où on peut aller pour sauver ce à quoi on tient.
Tu crois qu'il peut vraiment décider de démolir?
Je sais pas, Yuri.
Je vais vivre aux États-Unis. Puis mon cousin, il habite là-bas.
Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde.
Tu veux faire quoi, toi?
Faudrait qu'on repasse le lec, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire.
Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur.
Je sais très bien ce que je fais.
On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 euros.
C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Margarine Forever.
T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige.
Hey Yuri, faut que tu perds, hein, ils vont la détruire la cité. Hein.
Mais c'est quoi ici?
C'est chez moi.
T'as pété un câble, toi, en fait.
Tu peux rester avec moi.
C'est quoi ton rêve?
On peut aussi découvrir le film Minari de Lee Isaac Chung avec Stephen Yeun qui joue Glenn dans la série The Walking Dead. Ce film nous raconte l'histoire d'une famille sud-coréenne qui part s'installer aux États-Unis, dans l'Arkansas, où le père de famille veut devenir fermier. Ensemble, ils vont s'épauler pour s'adapter à ce nouveau pays. On peut voir qu'il y a une forme de choc des cultures et qu'ils vont faire face à la difficulté du métier d'agriculteur. Mais ils vont traverser cette période d'adaptation et d'apprentissage ensemble. Il y a aussi beaucoup d'humour dans le film, surtout dans la relation entre la grand-mère et le petit-fils, qui sont vraiment bien joués par les acteurs et les dialogues sont finement écrits et pleins de subtilité.
David, regarde, des roues.
Des roues ?
C'est quoi cet endroit ?
Notre nouvelle maison. On a dit qu'on voulait un nouveau départ. C'est ce qu'on fait. J'avais planté un beau grand jardin.
Quelle belle journée pour nous retrouver dans la maison du Seigneur. Si c'est votre première fois avec nous, veuillez vous lever. Quelle magnifique famille. Je suis heureux que vous soyez là.
Ton père aime sa nouvelle ferme ? Ça pousse bien, il fait ça comme il faut ?
Oui.
Les petits-enfants américains n'aiment pas partager la chambre.
Mais j'aime pas, grand-mère.
Il n'est pas comme ça. C'est un Coréen.
Grand-mère, sans la Corée.
Hé, hey, qu'est-ce que t'as dit sur ta grand-mère?
On va tout perdre ici. Il faut que tu penses aux enfants.
Ils ont besoin de me voir réussir quelque chose pour une fois. Wow!
Mon chemin, crétin.
Tu sais quoi, toi, t'es pas comme une vraie grand-mère.
C'est quoi, vraie grand-mère?
Elles font des biscuits, elles disent pas des mauvais mots, elles portent pas des caleçons d'hommes.
Il faut qu'on trouve de l'eau quelque part. Si on n'arrose pas bientôt, on va perdre la récolte.
Tu te rappelles ce qu'on s'est dit quand on s'est mariés? Qu'on viendrait en Amérique pour se sauver l'un l'autre.
Je m'en souviens.
On continue avec le film Les Deux Alfred, une comédie de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlin et Bruno Podalydès. On nous raconte l'histoire d'Alexandre, chômeur déclassé, qui a seulement 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Mais dans la nouvelle boîte où il va être embauché à l'essai, seule condition, pas d'enfant. Il doit donc cacher le fait qu'il a des enfants à ses collègues. Il fait alors face à une ambiance de travail un peu spéciale, où ses collègues ne manquent pas de fantaisie, et surtout son excentrique patronne, Séverine, interprétée par Sandrine Kiberlin, qui a un caractère bien à elle.
Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement.
Mais c'est quoi le poste?
Reactive Process.
Bon, alors le titre, slogan, là, on trouve, bordel de merde?
Bordel de merde, nous recherchons et...
Ici, à The Box, on fédère, on dispatche, on fixe des OP. D'ailleurs, j'ajoute souvent OP mesurable par simple Reactive Process.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Ici, c'est Dogshine. T'as pas d'enfant en bas âge, hein? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte. C'est la philosophie de la maison.
Alexandre, on a une conf-call dans 12 minutes.
Petit bémol, j'ai dû omettre de dire que j'avais des enfants.
Mais Little Candice, Alexandre.
Là, tu es trop près, parce qu'actuellement, je ne vois que ton nez.
Se fout de ma gueule, Alexandre.
Vous voulez me garder les petits? Les deux Alfred.
Sont deux petits singes, mais c'est un seul et même doudou.
J'aurais trouvé un joli petit nid.
Quand même. Bon, ils sont bien, là. C'est une voiture autonome.
Et ça, c'est la nouvelle tendance.
Il s'en va, Nicolas ?
Emmerich a appelé chez lui et c'est son fils qui a décroché.
Bon, bah, mets-toi en Bluetooth et mets-nous de la musique, que ça nous calme, là.
On se vous voit ou on se tutoie ?
Non, faites pas l'imbécile, là. Vous tenez, tenez-vous, là.
Qu'est-ce que c'est, le parfum ?
J'ai connu au fenouil. Ouais.
Message de ma voiture. Quoi, je suis partie me brancher à la borne. Mais quelle borne ? Et qu'est-ce qui est trop conne, cette bagnole, hein ?
Et on termine par le film La Nuée de Juste Philippot avec Suliane Brahim, Sophia Kams et Marie Narbonne, où on change complètement d'ambiance. L'héroïne, Virginie, jeune mère célibataire, se lance dans l'élevage et le commerce de sauterelles comestibles avec ses enfants. Une belle idée écologique, mais peu à peu, il se passe des choses bien étranges. Un film original et intrigant où le suspense est extrêmement bien amené.
Gaston, t'es sur le coup là ?
Ouh, elle-même.
Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos.
T'as vendu combien ?
Parce que je voulais.
Qu'est-ce qu'il y a ? Un problème ?
Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça.
C'est crazy business.
Bientôt, il n'y aura plus à bouffer. Vous êtes trop con pour vous en apercevoir.
Ça va ? Qu'est-ce que tu vas faire ?
À la semaine prochaine pour ma dernière chronique cinéma. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Pauline. Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien sûr en podcast sur radio-calade.fr. Vous pourrez la réécouter demain matin en rediffusion à 10h. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain, bien sûr. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.